Amen. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Je vous entendais chanter ça, on chantait ça de tout notre cœur. On a chanté « Je sais que pour moi tu l'as fait, le sacrifice de Christ à la croix pour nous. » Et je me disais « Waouh, c'est acquis. » Mon message, il ne sert pas à grand-chose ce matin. Finalement, je me dis mais pour moi, j'en ai besoin, donc je vais quand même le faire. Non. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, là, on vit quelque chose de tellement fort, de tellement encourageant. Ça nous motive, ça nous pousse en avant. Mais pourtant, en tout cas personnellement, il y a des moments où c'est un peu plus des petits moments de crise. Alors ça peut être des grands moments de crise, des plus petits moments de crise, mais je crois qu'on vit tous à un moment donné un moment de crise dans notre vie. Que ce soit, ça peut être dans notre santé, ça peut être dans tellement de choses. Et ce matin, je veux plus parler d'une crise, voilà, une crise qui nous tombe dessus tout d'un coup, on ne sait plus trop où on en est, on n'est plus tellement d'accord avec ce qui se passe, et puis ça réagit. On s'use, on se fatigue pour essayer de tenir la ligne, puis ouais, on en a marre. Ça peut être dans un engagement quelconque, ça peut être dans tellement de situations. Dans le couple, tout va bien, puis un jour on se dit, ouais, mais c'est toujours moi qui, trois petits points, hein, puis elle, ben, elle fait jamais trois petits points, hein, etc. Et puis ça devient une montagne, ça devient toujours plus gros. On a tous été une fois à l'école, en cours, en apprentissage. Et puis pour certains d'entre nous, il a fallu travailler des heures pour apprendre, pour réussir à retenir tout ce qu'on doit apprendre. Puis à la fin, on a un résultat qui est juste suffisant. Alors qu'à côté de nous, nos camarades, eux, ils sortent tous les soirs, ils vont faire la fête. Ils trichent pendant leurs examens, ils font des bonnes notes. Puis ils ne sont même pas attrapés.
Ah oui.
Franchement, il y a quelque chose qui est pas juste. Puis ça peut gentiment nous énerver et puis commencer de... Là, on commence à avoir de la rancune. Et ça devient une montagne pour nous. Et même dans la vie d'église. J'ai tout fait ce que Dora nous a encouragé à faire dimanche passé pour éviter ce fameux coup de mou là dans cette notion de persévérer. Mais là, franchement, je me prive de toutes les grâces matinées le dimanche matin pour venir au culte. Le mardi soir, les matchs de, je sais pas, Champions League, je sais pas si c'est le mardi, mais bref. Je les rate tous pour venir aux soirées de prière, pour la cellule. Je prends du temps pour essayer de discerner le chemin du Seigneur, parce que je veux le suivre. Et puis quand je regarde les personnes qui se laissent vivre autour de moi, qui profitent de chaque rayon de soleil pour aller à la plage, pour aller à la montagne, pour aller ici, pour aller là, franchement, c'est pas normal. Et puis ça devient une montagne. Et pour les plus jeunes, vous êtes aussi confrontés à la réalité des relations garçon-fille. D'ailleurs, vous savez plus, on vous dit que vous savez plus si un garçon c'est vraiment un garçon, si c'est une fille ou pas. Bref, ça devient tellement compliqué. Chacun vit ses choses comme il le veut. Alors que toi, tu t'efforces d'essayer de tenir la ligne que Dieu te donne dans sa parole. Mais au final, ça sert à quoi?
Rien.
Ça sert à quoi? On verra. Va pas voir de la mèche trop vite. Qu'est-ce que ça m'apporte tout ce que je vis? Est-ce que vous avez jamais posé cette question? Qu'est-ce que ça m'apporte tout ce que je vis? Ce matin, je vais vous lire le témoignage d'une personne, de quelqu'un qui a passé par un de ces moments de crise. Je le disais, ce n'est pas forcément lié à un temps de souffrance physique. Là, pour cette personne, c'était juste un temps de crise, un ras-le-bol, un épuisement de devoir faire les efforts pour essayer d'arriver au but qui est fixé. Mais ce ras-le-bol, on le verra, aurait pu l'entraîner dans des conséquences vraiment dramatiques, dévastatrices. Mais cette personne s'est reprise, et on verra de quelle manière. Alors c'est une personne qui a de grandes responsabilités dans le service dans lequel elle est engagée pour Dieu. C'est une de ces personnes qu'on voit devant sur la scène, qu'on envie parce qu'on se dit, mais ouais, pour elle, il y a tout qui va bien. Elle reçoit une parole de Dieu, elle la donne, les choses se passent. Tout va comme sur des roulettes. On la voit comme ça, cette personne. C'est quelqu'un qui est au top. Dieu lui parle, les choses se font. Cette personne, elle est responsable d'une équipe de louanges. Pourquoi les regards se tournent là? Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. C'est pas Marianne, c'est pas Jean-Pierre, c'est pas Riza. Il y a quand même un certain temps que cette personne a vécu. D'ailleurs, c'était un contemporain du roi David. Donc, ça date d'un moment. Hein. Certains auront sûrement reconnu que je parle d'Azaph. Azaph, il en est parlé dans 1 Chronique 16. On va voir de quelle responsabilité il avait. En fait, dans 1 Chronique 16, c'est le moment où David ramène l'arche de Dieu à Jérusalem en dansant devant cette arche. Et puis, il y a tout l'épisode où sa femme se moque de lui, etc. Mais dans 1 Chronique 16, les versets 1 à 7, on va lire ces quelques versets. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'était Azaph le chef, Zacharie son second, et puis il y a toute une liste de personnes après. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaïa et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Azaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Azaph avait une mission vraiment importante, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer, de le célébrer. C'était lui qui était responsable de toute cette équipe. C'était son rôle de rappeler tout ce que Dieu avait fait pour le peuple. Que ça ne s'oublie pas, mais que de génération en génération se soit rappelé. Azaph connaissait Dieu. Il était vraiment au clair de ce que Dieu avait fait pour son peuple. Il savait que Dieu est bon. Et pourtant, à un moment donné, il a vécu une crise existentielle qui a failli le faire trébucher. Et son témoignage, on le trouve dans la Bible, dans un des psaumes, dans le psaume 73. On va le lire à partir du verset 2. Je vais garder le verset 1 pour la fin. Du verset 2 à 14. Oui, pardon, 2 à 14. « Toutefois, mon pied allait trébucher, mais pas était sur le point de glisser. Pourquoi ? Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Ouais, il va pas bien. Hein? Il va pas bien, Azaph. Est-ce que tu te reconnais, ne serait-ce que dans un mot ou l'autre de tout ce qui a été cité là? Moi, ça m'arrive. Même si aujourd'hui, ces choses n'arrivent plus à avoir l'emprise qu'elles auraient pu avoir à un moment donné de ma vie. Est-ce que ça a un sens, tout ce que je vis, toute ma foi, tout ce que je vis? Vous êtes jamais posé cette question? Moi, ça m'arrive encore de me la poser aujourd'hui. Mais je sais, et ça dure pas. Je sais exactement ce que Dieu a donné, a mis en moi. Et ça dure plus. Mais ça peut devenir une grande crise existentielle. Asaph, c'est vrai, il est responsable, mais c'est un humain, c'est un homme normal, comme vous et moi. Quand il a un problème, il commence à réfléchir. Et quand on commence à réfléchir, vous avez déjà remarqué, bien souvent, le problème, il grossit, il grossit, il grossit. Moi, quand je travaille sur des chantiers, quand tu dis à un carreleur qu'il y a un souci quelque part, il te répondra toujours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il trouve toujours une solution. Mais là, dans ce texte, dans cette réalité d'Asaph, il y a vraiment un problème. Même un gros problème. Plus il réfléchit, puis plus ça prend d'ampleur pour lui. Et au verset 16, il le dit, « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » C'était vraiment devenu quelque chose d'impossible à gérer pour lui. Asaph, il est vraiment comme nous. Quand on commence à réfléchir, on a beau tourner le problème dans tous les sens, on peut en faire des insomnies, mais les réponses sont toujours insatisfaisantes. La seule réponse qu'on peut trouver, c'est pas normal, c'est injuste, c'est inutile, ça sert à quoi?
Il n'y a qu'à moi que ça arrive.
Il n'y a qu'à moi que ça arrive, exactement. Que je doive m'être privé de tant de facilités qui sont à ma portée de main, alors que tous les autres peuvent en profiter. Les efforts que je fais, ça n'a pas de sens. Voilà le résultat. Ça n'a pas de sens. Et Asaph, il en était là. Il en était là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué son travail dans le temple. Il a continué de louer Dieu. Il a continué de faire ce qu'il avait à faire dans la maison du Seigneur, dans la maison de l'Éternel. Et à un moment donné, quelque chose a changé en lui. Et on va le voir dans les versets suivants, 17 à 20. J'ai pris la version du semeur pour cette partie-là, parce qu'elle est plus parlante un petit peu de ce que nous, on peut vivre aujourd'hui avec nos mots. C'était comme ça, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Qu'est-ce qui vient se passer pour Asaph? Qu'est-ce qui fait que tout à coup il réagit tellement différemment? Il va faire sa tâche, celle qui lui est confiée, comme toujours. Mais ce n'est pas pour autant qu'il en oublie tout ce qu'il est en train de réfléchir, tout ce qu'il est en train de penser. Mais à un moment donné, il est placé devant Dieu. Il est placé devant Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et ses pensées sont toujours en lui. Mais il est dans la présence de Dieu. Et là, pour lui, c'est la révélation. Dieu lui révèle. Dieu lui parle. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il n'y a rien d'écrit. Comment est-ce qu'il l'a fait? Mais quelque chose s'est passé. Il est visité par l'Esprit de Dieu et ses yeux s'ouvrent. Et il est placé face à une réalité finalement qui lui avait complètement échappé. Il avait tout le problème, Mais il lui manquait une pièce la plus importante. Celle qu'il ne pouvait pas trouver par lui-même. Celle que seul Dieu pouvait lui révéler. Et Asaph comprend que toutes ses réactions, toutes ses réflexions, toute sa façon de réagir pouvait l'emmener à sa perte. Alors qu'il sert à un Dieu qui est bon. Et lui, il risque de courir à sa perte. Il sait que Dieu est bon. On l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais à ce moment-là, il réalise quelque chose de plus. Il réalise que Dieu est bon pour lui. Dieu est bon pour lui. Parce que dans sa situation, lui-même, il n'allait pas s'en sortir. Il n'y a que Dieu qui pouvait venir intervenir dans sa vie. Dieu est bon pour lui. Asaph, on le voit, il est complètement transformé. Sa compréhension est nouvelle, une compréhension qu'il reçoit dans la présence de Dieu. Jusque-là, Asaph savait que Dieu était bon. Il l'avait appris. Il connaissait la bonté de Dieu au travers de tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et il en a fait. Mais tout ça, ça ne répondait pas à sa question existentielle du moment. Mais quand la présence de Dieu descend sur lui, il y a une révélation. Il y a la révélation. La révélation qui va bouleverser sa vie. Et il réalise que la bonté de Dieu, elle ne s'arrête pas à son bien-être du moment. C'est bien plus grand que ça. L'enjeu, il est bien plus énorme que tout ça. Et à partir de ce moment-là, je crois, Asaph ne vivra plus pour les tâches qui lui sont confiées, aussi spirituelles qu'elles soient, il ne vivra plus pour ces tâches, il vivra pour Dieu. C'est plus le même Asaph. Ce qu'il savait, les connaissances qu'il avait, il les a toujours. Mais c'est devenu une réalité vécue dans sa vie. Je ne sais pas, vous avez remarqué, il n'a pas fait un acte extraordinaire, il n'a pas soudainement été faire je ne sais quoi, un sacrifice ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas soudainement été rempli d'une puissance qui l'a fait faire quelque chose. Il a juste compris. Juste compris. Dieu s'est révélé à lui. Et il a réalisé la bonté de Dieu pour lui. Les versets 21 à 28. Il dit ce qu'il a réalisé, ce qu'il a compris dans ce verset. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Pardon. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Vous avez remarqué, c'est plus tout ce que tu as fait, mais de raconter tout ce que tu fais. Ce texte, ce bout de texte, il pourrait se passer de commentaires. Il est tellement clair. On voit tellement le changement d'Asaph, le changement de sa vie. Et quand Florence nous parlait de l'Éternel mon berger, il y a quelques semaines, à un moment donné, elle a dit « ce que l'on croit dicte notre manière de vivre ». Alors ce matin, j'ai envie de nous poser la question, mais crois-tu que notre Dieu est bon? Crois-tu qu'il est l'auteur de la pêche miraculeuse? Qu'il a guéri le paralytique? Qu'il a ressuscité la fille de Jaïrus? que sur la croix, il a porté nos péchés. Est-ce que tu crois même, aujourd'hui, il se passe des miracles à Mada? Il y a un réveil au Brésil. Qu'en Birmanie, Dieu agit avec puissance. Peut-être même que tes voisins ont vécu une intervention de Dieu impensable. Est-ce que tu crois tout ça? Et je pense que tu le crois. Mais pour toi, qu'est-ce que tu crois? Je fais plein d'efforts, mais rien ne change. Peut-être tu te dis, là maintenant je suis trop âgé, c'est trop tard. Ou bien si Dieu en a oublié un, ben c'est bien moi. Ça peut être juste dans un domaine de notre vie. Hein. Je ne dis pas que toute notre vie est comme ça, mais ça peut être dans un domaine, dans un tout petit domaine de notre vie. Ce que l'on croit dicte notre manière de vivre. Je, tête baissée, regard fixé sur soi-même. Dans cette position-là, c'est sûr, le mur qui est en face, on ne va pas le voir arriver. Et Asaph était tout près de trébucher, il le dit. On l'a lu au verset 2. Mon pied allait trébucher, j'étais sur le point de glisser. Il était un rien de se faire le mur, comme on dirait. Mais à ce moment-là, Dieu l'a empoigné. Tu m'as empoigné la main droite, qui dit. Si on t'empoigne la main alors que tu es recroquevillé sur toi-même, que tu as le regard fixé sur toi, il se passe quoi? On va faire un test. Norma, t'es partante? On fait le test? Bien. Alors Norma, elle vient s'asseoir sur la chaise avec tous ses problèmes, justement, elle ne s'en sort plus. Puis elle réfléchit, elle appuie, voilà, elle réfléchit. Peut-être faut-il juste mettre un petit peu de l'écran plus large pour que les autres voient. Mais voilà, Norma, elle est assise là avec tous ses problèmes. Elle se pose plein de questions. Et puis quelqu'un arrive, et puis lui empoigne la main. Bon, apparemment, elle ne veut pas. Hein. On va la laisser tranquille. On va la laisser tranquille. Il y a une autre manière de réagir. Ah. Hé, hey, Norma. Allez, debout, Norma. Merci. Super. La main de Dieu, elle vient. Tu m'as empoigné la main droite. Dieu veut nous empoigner dans nos situations qui sont impossibles, qui nous paraissent pas justes, qui nous paraissent, ouais, qui sont destructrices pour nous. Dieu veut nous empoigner. Mais après, comment est-ce qu'on réagit? Soit tu vas secouer ta main pour te dégager parce que tu es déséquilibré dans tes réflexions, puis tu veux pas qu'on vienne te déranger là-dedans. Pas qu'on te déstabilise encore davantage. Donc tu restes dans tes difficultés. Ou alors, ton regard se fixe sur cette main qui t'empoigne. Tu regardes cette main, tu regardes d'où elle vient, et finalement tu croises le regard de la personne qui te tend la main, qui te prend la main. C'est ce qu'Asaph a fait. Et c'est à ce moment-là, en croisant le regard de Dieu, de ce Dieu qu'il a empoigné, qu'on est plus centré sur nous-mêmes. On a vu l'expérience tout à l'heure avec Norma. Quand elle m'a regardé, elle a oublié tous ses problèmes. Elle s'est levée. Et c'est ce qui se passe avec Dieu quand il vient nous prendre, quand il vient nous rejoindre dans nos difficultés. Il dit, mais regarde à moi, arrête de te centrer sur toi-même. Regarde à moi. Et tu vas te lever avec lui. Alors j'ai envie de prier, Seigneur, mais viens nous empoigner ce matin. Que notre regard se tourne, se détourne de nos problèmes pour croiser ton regard, Seigneur. Ton regard, quand sur la croix, tu as porté nos manquements, nos erreurs, nos péchés, nos doutes, nos incapacités, nos maladies. Ton regard du ressuscité qui nous dit, c'est plus toi qui vis maintenant, c'est moi, Christ, qui vis en toi. Moi, le Dieu de l'impossible. Et je crois que Jésus, par son Saint-Esprit, veut faire cette œuvre de transformation, de restauration, de guérison dans nos vies, dans ces endroits de nos vies où on peut être blessé, où on peut être secoué, où on peut être déstabilisé. Mais pour faire son œuvre, il attend une décision de notre part. Il ne s'impose pas. Parfois, il vient nous empoigner pour te dire, mais je suis vraiment là. Mais nous, dans notre obstination, on va se débattre encore. Il attend une décision de notre part. Et chacun, personnellement, nous devons faire un choix à un moment donné dans ces situations-là. On peut les vivre aujourd'hui, on peut y être confronté demain, mais on a un choix à faire. Alors que tu viens de croiser le regard de Jésus, tu décides de ne plus détourner ton regard de lui. Tu prends cette décision. C'est ce qu'Azaph a fait. Et là, c'est sa grandeur, son amour, sa fidélité, sa bonté qui vient nous rencontrer. Vous savez, ne rien décider, c'est décider de rester comme avant, quoi. C'est vite vu. Je vais prendre un texte dans Josué. Dans Josué 24, le verset 15. Josué, à ce moment-là, il explique au peuple d'Israël l'alliance que Dieu a établie avec lui. C'était cette alliance que Dieu a établie avec son peuple. Il la rappelle, il l'explique à son peuple. Il dit clairement au peuple d'Israël, vous devez faire un choix. Soit vous servirez Dieu, ou vous servirez quelqu'un d'autre. Et il dit au verset 15, « Pour ma part, j'ai fait mon choix. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, c'est décidé, c'est comme ça. Faites le choix que vous voulez, moi j'ai pris ma décision. » Et ça ne va rien changer pour lui. Quelle que soit la décision du peuple autour de lui. Et si Josué a pris cette décision, c'est qu'il connaissait son Dieu. Il ne le connaissait pas seulement en théorie. Ce n'était pas le Dieu qu'on lui avait expliqué, dont on lui avait parlé. Mais c'était ce Dieu qui agissait dans sa vie de tous les jours, qui l'a conduit pour diriger le peuple, pour emmener le peuple dans la terre promise. Alors pour terminer, je vais revenir au psaume 73, au seul verset qu'on n'a encore pas lu, le verset 1. Eh oui. Par quel mot est-ce qu'il commence ce verset ? Psaume 73, le verset 1, le premier mot. Oui. Vous commencez... Vous commencez une phrase, vous commencez à parler à quelqu'un, vous commencez par dire oui. Pourquoi est-ce qu'il dit oui? Il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon. Je peux documenter le sujet de plein de manières, peut-être pas moi, mais d'autres, plus que moi. Avec plein de textes bibliques, plein de références, qui sont la vérité. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Dieu est bon. Mais c'est une théorie qu'on m'enseigne et que j'enseigne. Ça s'arrête là. Ce oui, C'est pas seulement Dieu est bon. Quand parfois tu te rappelles tout ce que tu as vécu, tu dis, oui, c'était le bon vieux temps. Oui, c'était le bon temps. Et puis on se rappelle tout ce qu'on a vécu. Ce oui, c'est ça. Oui, pas seulement Dieu est bon, mais certainement, c'est sûr, Dieu est bon. Parce que dans ce oui, je me rappelle tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait de ma vie. Il y a du vécu, il y a un témoignage à partager. Oui, Dieu est bon. Est-ce que ce matin on peut dire oui, Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire oui, Dieu est bon? Peut-être que dans un domaine ou l'autre de ta vie, tu réalises que oui, je dois aller rencontrer Dieu. Je dois aller le rencontrer. Je dois m'arrêter simplement pour recevoir sa pensée, pour recevoir son cœur, pour recevoir sa révélation. Et que je puisse dire, dans ces situations-là, oui, Dieu est bon. Pas juste la théorie qu'on me dit, mais ce que je vis. Ce matin, tu connais Dieu, tu connais la réalité de qui il est. Mais peut-être, dans ce domaine où ça t'amène rien, dans ce domaine où ça ne change pas tes réalités, dans ces domaines où tu te dis peut-être même que ce serait bien plus simple que je ne sache pas toutes ces choses, je pourrais m'en passer. J'aimerais te dire, mais ce matin, laisse le Seigneur venir te toucher. Le groupe Louange va prendre un chant qui parle de nos faiblesses, de nos difficultés, à parfois entrer dans la présence de Dieu, mais aussi qui parle de « Je le ferai, je chanterai gloire, je chanterai gloire ». Alors ce matin, pendant ce chant, je ne te dis pas de chanter, je te dis simplement, arrête-toi devant le Seigneur et laisse-le agir dans ta vie. Laisse-le venir toucher ton cœur. Et si tu veux chanter, tu chantes. Mais si tu veux simplement le laisser son esprit couler en toi, laisse-le faire. Laisse-le faire.
See you. chante les louanges à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
Proclamer ces paroles sur cette réalité de nos vies. Ce matin, Seigneur, je sais que tu viens rencontrer nos cœurs. Je le sais, Seigneur, parce que tu es ce Dieu bon, ce Dieu fidèle, ce Dieu merveilleux. Tu nous as créés, tu nous as placés aujourd'hui dans ce lieu. Tu nous as réunis parce que tu as quelque chose à nous dire et quelque chose que tu veux faire dans nos vies. Et Seigneur, moi, je te bénis pour ce que tu es en train de faire ce matin dans la vie de plusieurs. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, parce que tu vas aller au bout des choses. Seigneur, merci pour ces mains que tu empoignes. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, que les regards de ces personnes puissent se tourner vers toi et rester fixés dans ton regard. Fais cette œuvre de restauration, Saint-Esprit. Fais cette œuvre de transformation dans nos vies. Guéris, relève. Encourage ce matin. Seigneur, qu'aucun cœur ne parte d'ici sans être rempli de ta joie. Parce que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es bon pour nous. Oui, tu agis dans nos vies. Oui, tu es fidèle. Et oui, tu resteras fidèle. Merci Seigneur pour ton œuvre au milieu de nous. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus, à ton seul nom. Amen.